Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite histoire du planning familial.
C'est vraiment un autre monde que chez le médecin en fait, parce que généralement le médecin généraliste, c'est le médecin généraliste de toute la famille. Sauf que là, on est vraiment traité comme des adultes, on est encore mineur en fait. Et là, je me sens vraiment en confiance en fait ici.
En novembre dernier, Marion Maréchal Le Pen déclarait vouloir couper les subventions du planning familial. La candidate du Front National aux élections régionales dénonçait alors une association politisée à l'approche assez banalisée de l'avortement. Ce faisant, la jeune politicienne s'en prenait surtout à la principale organisation d'écoute, de conseil, de soutien et de prévention en matière de sexualité et de contraception. Un mouvement qui milite pour l'égalité des sexes, qui aide au quotidien, gratuitement et anonymement, des milliers de femmes et d'hommes confrontés à des problèmes d'ordre sexuel, relationnel et affectif. Que ce soit par exemple une infection vaginale anodine, de la violence conjugale ou encore une grossesse non désirée. Aujourd'hui, dans Ça vient pas de nulle part, nous entendrons donc des usagères et des conseillères du planning familial. En fin d'émission, nous suivrons la troupe de théâtre forum du planning familial des Bouches-du-Rhône à l'occasion d'une séance de sensibilisation aux questions de genre dans un collège marseillais. Mais tout de suite, penchons-nous sur l'histoire de ce mouvement français pour le planning familial. Ça commence en 1956, c'est avec la doctorante en sciences politiques Alice Romerio, et ça va commencer.
À l'origine, c'est la Maternité Heureuse qui a été créée le 8 mars 1956. Donc, par Marie-Andrée Lagroix-Veilallée, qui était gynécologue, et donc qui a été présidente de cette association, dont le conseil d'administration était composé de 23 femmes. Et donc, on dit que c'est parce que pendant ses études de gynécologie, qu'elle a fait un stage en chirurgie et qu'elle a découvert tous les ravages des avortements clandestins et qu'elle s'est donc engagée contre la loi 1920 qui interdisait la propagande, ce qu'on appelait la propagande anticonceptionnelle et qui englobait donc à la fois la criminalisation de l'avortement et donc de la diffusion d'informations et de la vente de moyens contraceptifs.
Non, j'accompagne ma copine, mais je connaissais le planning familial parce que j'ai plusieurs copines qui viennent par rapport à quand elles l'ont fait, par exemple, et elles ont eu des rapports et elles sont pas bien protégées. Du coup, elles viennent ici parce que pour la pilule du lendemain et parce qu'il y a cette confidentialité qu'il n'y a pas chez un gynéco.
En fait, donc c'est en 1960 que l'association Maternité Heureuse devient le mouvement français pour le planning familial. Et donc c'est une association qui fonde sa légitimité sur la figure de la mère respectable, c'est-à-dire des bonnes mères de famille, plutôt bourgeoises, qui souhaitent pouvoir réguler les naissances pour qu'elles arrivent au moment où elles l'ont désiré.
Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupées pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement.
1961, premier planning familial. Une fondatrice se souvient de cette époque où l'on osait à peine se renseigner sur la contraception.
Ce que nous avions à offrir était uniquement le diaphragme et la crème spermicide. Et alors, nous n'en avions pas, puisque depuis des années c'était interdit. Grenoble peut-être avait une facilité, nous allions les chercher à Genève. Comment ? Ça vous intéresse de savoir oui. comment oui. nous allions les chercher? Eh bien, nous allions les chercher avec des sacs à double fond pour les cacher, soit dans des ourlets de jupe, et soit surtout dans les pneus de secours de la voiture. Pour la contraception, nous avons évidemment vécu dans l'illégalité, mais pour l'avortement encore plus, eh bien, nous étions très craintives. Et vous savez qu'autour de moi, souvent, je n'osais pas dire que j'étais au planning familial.
Et donc, en juin 1961, qu'est ouvert le premier centre à Grenoble, puis ensuite, très rapidement, un deuxième centre à Paris, et ainsi de suite, dans plusieurs départements en France. Cette période-là, avec l'ouverture des centres locaux, s'accompagne d'un changement, si vous voulez, des profils des militants de l'association. À la fois parce qu'il y a plus de médecins qui rentrent. Donc c'est une nouvelle expertise aussi, c'est une nouvelle légitimité fondée sur l'expertise médicale et aussi sur la masculinisation qui va permettre de fonder une nouvelle légitimité fondée sur la mixité.
Lucien Neuwirth, député, le 20 décembre 1966.
Pour nous, la loi de 1920 a été une loi de circonstance. La France sortait d'une longue épreuve, avait connu une douloureuse hémorragie, dont d'ailleurs elle n'est pas tout à fait remise, et le législateur de l'époque a pensé à une chose, à chercher à poursuivre un but, c'est de relancer la natalité dans notre pays qui avait été si profondément atteint. Avec le recul du temps, nous pouvons nous rendre compte que cet effort a échoué. Mais je crois que ce qu'on peut lui reprocher de plus grave, c'est qu'elle a poussé à maintenir une espèce de tabou sur certaines questions en interdisant l'information en ce qui concerne les méthodes contraceptives. On s'explique pourquoi elle a été édifiée, pourquoi elle a été votée, mais on doit en constater aussi la nocivité et le fait qu'en 1966, bientôt 1967, elle n'a plus aucune raison d'exister.
Avec la loi donc Neuwirth votée en décembre 67, il y a plusieurs éléments qui vont effectivement être intéressants dans l'histoire du planning familial. La première donc c'est qu'elle autorise donc la vente en pharmacie de contraceptifs sur ordonnance ou certificat médical et elle prévoit la création de centres les centres de planification qu'on connaît aujourd'hui et les centres d'information qui vont être gérés en partie donc par cette association, par le planning familial.
Salon d'écoute, février 2016, Marseille.
Là, on a un préservatif féminin. Bon, celui-là est fermé, mais on en a un ouvert. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours les choses vraiment à portée de vue des gens, parce que ça peut leur poser question d'un coup, sans qu'on en ait parlé dans l'entretien, en sortant, enfin avant de sortir, elle peut dire « Et ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai vu qu'il y avait ça. » Voilà. Du coup, c'est hyper intéressant vraiment que ce soit visible pour les personnes. Ça permet de discuter, d'échanger. Et notamment le préservatif féminin, qui est quelque chose de pas très montré, pas très utilisé, pas très discuté, il pose vraiment question. Donc l'avoir vraiment de manière visible, c'est hyper important. Du coup, voilà, il y a plusieurs sortes de pilules. La pilule du lendemain, les stérilés, un spéculum, pour parler aussi de la visite gynéco, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut s'y passer. Si je regarde là, on a quoi d'autre, l'anneau vaginal, le patch, des préservatifs, le diaphragme, ce qu'on peut trouver comme moyen de contraception. Et on a un autre outil qui n'est pas là, mais qui est super, c'est on a une collègue qui tricote des vagins et des vulves en laine. Et là je ne l'ai pas, mais c'est un outil super pour parler du corps, du plaisir, du clitoris. Et de montrer comment on est vraiment faite, avec une vision un peu en 3D. Et c'est vraiment l'outil, j'ai envie de dire, principal qu'on a aussi, qui est vraiment au top, quoi. Donc moi, je m'appelle Coralie, je suis conseillère conjugale et familiale, au planning familial. Ça fait 6 ans que je travaille ici. Du coup, on s'appelle les conseillères conjugales et familiales, mais en vrai, le nom ne correspond pas du tout à la fonction qu'on a, puisque du coup, on ne donne pas de conseils. On fait très peu de conseils conjugaux et on ne reçoit pas les familles au complet. Du coup, entre nous, plutôt dans les salons de permanence, on a tendance à s'appeler des écoutantes. Nous, on travaille tout ce qui touche à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est-à-dire la relation à l'autre, mais ça peut être la relation à la famille, aux partenaires. Voilà. Du coup, ça inclut les violences, ça inclut tout ce qui est du corps, des sentiments, des... Enfin, c'est vraiment très large. Quand on parle de sexualité, souvent, ça résonne comme juste rapport sexuel, alors que la sexualité, c'est un champ hyper large. Souvent aussi, ce qu'on se dit, c'est que les personnes, elles passent la porte avec quelque chose de genre, bon, bah, j'ai envie de parler de ça, mais tiens, je vais dire que j'ai envie de faire un test de grossesse, et puis hop, elle nous emmène autre chose. Nous, vraiment, on est là pour tirer des fils avec elles et pouvoir discuter, comprendre ce qu'elles vivent, ce qui se passe pour elles, pour pouvoir les aider à réfléchir au mieux sur leur situation, à prendre leur propre solution.
Voilà, donc l'objectif étant atteint, la présidente décide de démissionner, surtout que, en fait, une autre partie de l'association, elle continue la lutte, notamment pour une amélioration de cette loi. Et se pose la question ensuite de légaliser l'avortement, qui va vraiment être une ligne de fracture au sein de l'association.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ce repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, y a pas de boulot. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis, faut bien se faire une raison. Au moins, ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr, les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu.
On parle de... C'est une des lignes de fracture, la question de l'avortement. Il y en a d'autres aussi, et notamment la question de l'institutionnalisation de l'association et de sa professionnalisation. Et on va donc retrouver plusieurs clivages qui se fondent à la fois sur des questions de classe et de sexe, parce que à ce moment-là, comme je disais, avec la masculinisation de l'association, les postes de pouvoir en fait sont tenus par des hommes et par des médecins, et que les femmes qui reçoivent les couples dans les centres sont elles en revanche des femmes pas forcément rémunérées, certaines oui, etc. C'est vu comme des salaires d'appoint. Et donc plusieurs, ce qu'on appelait animatrices, conseillères, vont se réunir, vont s'organiser à partir de 1969, hein, donc peu de temps après aussi mai 68, un moment où on arrive aux années 70 avec les mobilisations féministes, qui vont vouloir défendre leur place dans l'association et avoir des revendications sur une professionnalisation plus respectueuse de leur place, ne pas être des assistantes de médecins, mais avoir une place à part entière. Et une des meneuses de cette fronde est Simone Hiff, donc une conseillère de la région parisienne. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ces animatrices qui, donc au congrès de 72, vont lire une série de revendications, en revenant sur les conditions de leur travail, en voulant plus de reconnaissance. Donc c'est un congrès très houleux qui va donner lieu donc à un autre congrès l'année suivante, où donc Simone Hiff est élue présidente et engage le planning sur de nouveaux objectifs.
France Inter, il est 19h.
Le 4 juin 1973.
Interactualité Magazine, édition du soir, Dominique Bomberger.
Bonsoir. Le mouvement français pour le planning familial vient de tenir son 10e congrès. Dans la motion qui a été adoptée, le planning familial dénonce, je cite, « le sabotage délibéré de la contraception par le gouvernement » et il se prononce en faveur de l'avortement et de la contraception libre et remboursée par la Sécurité sociale. Madame Simone Hiff, présidente du mouvement, a souligné au micro de Gérard Dupagny la principale décision qui a été prise au cours de ce congrès, la création de centres d'orthogénie où les responsables du mouvement entendent que se pratiquent des avortements.
Le congrès a surtout posé la question de la nécessité que les militants du planning ouvrent et fassent pression sur les pouvoirs publics pour que des centres d'orthogénie soient ouverts dans tous les départements de France. Et il nous semble impossible de séparer le problème de l'avortement et de la contraception.
Si je comprends bien votre motion, est-ce que vous ne voulez pas en quelque sorte généraliser ce qui s'est passé récemment à Grenoble, c'est-à-dire donc effectuer des avortements illégaux?
Bien sûr. Le planning, et il n'est pas seul dans cette bataille, pense qu'il faut lutter par tous les moyens contre l'avortement clandestin et contre le risque que s'instaure une politique de profit en matière d'interruption de grossesse. Donc, il accepte de se mettre dans cette situation, de créer un rapport de force qui va, pense-t-il, faire prendre conscience aux hommes et aux femmes que quelque chose d'autre doit être fait en France pour résoudre leurs problèmes.
Simone Veil, ministre de la Santé, 26 novembre 1974, à l'Assemblée nationale.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Donc il y a plusieurs événements qui vont faire que Simone Veil va pouvoir tenir son discours à l'Assemblée nationale pour... la légalisation de l'avortement. Donc en 1975, on a donc un contexte favorable avec des mobilisations féministes, des événements médiatisés avec l'affaire de Bobigny, le manifeste donc des 343 femmes disant qu'elles ont recouru à l'avortement et qui ont été ensuite appelées les 343 salopes.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a des places un peu là, vous pouvez les occuper, des places qui sont libres, il y a quelques places devant vous.
Mars 2016. Bonjour. Collège Château-Forbin à Marseille. Pièce de théâtre forum où le public peut modifier l'histoire et prendre la place du comédien.
Est-ce que vous savez pourquoi on est là?
Non.
Qu'est-ce qu'on va faire selon vous? Regardez-moi. Regardez derrière moi.
Théâtre.
Oui.
Une pièce de théâtre.
Une pièce de théâtre, très bien. Alors, ça s'appelle Gadju Gadjo, donc ça parle de...
Filles et des garçons.
Filles et des garçons, tout à fait. En fait, nous, on s'est rendu compte que souvent, on parle de filles et de garçons, et puis on parle de ce qu'ils doivent faire les filles, ce qu'ils peuvent faire les filles. Et aussi, les garçons, des fois, on leur dit, bah, ça, il faudrait le faire, ou ça, il faudrait pas le faire. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter avec vous de ça. Alors du coup, on va faire une petite pièce, ça ne dure pas longtemps. Après cette pièce, on en discutera. Et puis après, si vous le souhaitez, on reprend l'essai. Et cette fois-ci, quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire stop. Et on arrête, les comédiens s'arrêtent. Et les comédiennes s'arrêtent. Vous pouvez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ou en restant assis, ou sinon en venant et jouant avec nous ici. Ah, ok. Ça vous tente? Oui.
Donc après 1975, le planning familial continue à lutter pour obtenir l'adoption définitive en 1979 de la loi Veil, ce qui est quand même a été quand même un moment important de lutte encore à ce moment-là au planning familial. Donc le vrai tournant, il est au début des années 80 en fait. Une fois que la loi est votée, une fois que les centres IVG ouvrent, etc., là on passe dans une nouvelle phase du planning familial, qui est comment on se positionne maintenant par rapport à un État qui a reconnu un certain nombre de nos revendications, qui fait de nous maintenant un acteur clé dans la mise en œuvre de ces nouvelles politiques publiques Comment nous maintenir notre position toujours revendicative? Quels vont être nos nouveaux champs de bataille? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'élection de François Mitterrand, donc en 1981, c'est Yvette Roudy qui est nommée au ministère du droit de la femme, à ce moment-là, le nom du ministère, et qui va faire de Simone Yves, donc la présidente du planning familial, une interlocutrice privilégiée. Et elles vont développer un certain nombre de nouvelles donc politiques publiques, notamment sur les questions de violence envers les femmes, de développer aussi une plateforme téléphonique d'information voilà, et d'écoute autour de la contraception de l'IVG, de formation aussi auprès de des professionnels, qu'il s'agisse de la police, mais aussi de travailleurs sociaux, et dans les établissements scolaires.
Oh, génial, depuis tant qu'on attend ça, ça commence quand?
Eh ben c'est demain à 18h.
18h? Mais non, mais comment tu veux que j'esquive mon frère?
Ah non, hein, tu vas pas me laisser y aller toute seule, j'ai trop honte moi.
Mais non, mais il voudra jamais, tu sais bien qu'il est toujours derrière mon dos.
Oh mais t'as vu l'heure, qu'est-ce que tu fous là?
J'étais en train de rentrer, le prof nous a retenus.
T'es en train de rentrer là? Je suis avec ta copine, ouais. Ça c'est quoi?
C'est à moi, ça.
Maintenant, c'est à moi. Un cours de judo? Non, mais tu te fous de moi?
Ça fait un moment qu'on a envie de faire du judo avec ma copine. S'il te plaît, laisse-moi y aller.
Pourquoi faire? Tu m'as pris pour qui, là? Je vais laisser ma soeur se rouler par terre avec des mecs? Qu'est-ce qu'on va dire de moi?
Mais toi, tu fais bien le sport que tu veux.
Ouais, mais moi, je suis un mec, je fais ce que je veux. Toi, tu rentres à la maison. Oh mais t'es encore là toi? Je t'ai dit de rentrer à la maison, t'as rien à faire dans la rue!
Et Linda, demande à tes parents quand même!
Je dégage.
Ah, je vous ai entendu quand même sourire. Quoi, je vous ai entendu rire en fait.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène et qu'est-ce qui lui arrive à notre personnage?
Oui.
C'est normal qu'un frère connaisse sa sœur.
Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense que c'est pas bien parce qu'il l'embête, il lui laisse pas se faire ce qu'elle veut.
Oui. Il empêche de vivre. Et lui, il peut faire ce qu'il veut parce que, soi-disant, c'est un garçon.
Et c'est vrai?
Mais moi, mon frère, il va me voir dans la rue, c'est normal qu'il va me dire de rentrer.
Ah, c'est ton. Ouais. En fait, en général, un frère, est-ce que c'est son rôle, on peut dire?
Non, c'est pas son rôle, mais il doit être protecteur avec ça.
Il doit être protecteur. Tu voulais dire quelque chose?
Elle a le droit de partir, elle fait ce qu'elle veut.
Elle fait ce qu'elle veut.
Elle ne traîne pas avec n'importe qui.
Elle ne traîne pas avec n'importe qui, mais.
Avec des gens qu'elle connaît.
Avec des gens qu'elle connaît.
Ben oui.
Mais elle fait ce qu'elle veut.
Non,
mais. Non, et toi, tu dis non. Parce qu'il faut être protégé, c'est ça? Mais est-ce que du coup, vous croyez qu'en fait. C'est parce que à l'extérieur, il n'y a que des dangers?
Non. Donc, dans les années 80, il y a effectivement un élargissement des revendications, donc sur la question des violences. Donc, on va un peu s'éloigner des questions d'avortement et de contraception, mais on va retrouver la question des risques sexuels aussi avec l'épidémie du SIDA. Et c'est à partir des années 90 qu'on va que la question du genre, la réflexion autour du genre va vraiment, le planning familial va vraiment s'en emparer et voilà, l'utiliser dans toutes ses actions, aussi bien dans ses interventions auprès d'un public scolaire que dans ses formations professionnelles, que dans sa manière aussi d'écouter les personnes qu'elle rencontre.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la première scène. Qu'on commence la première scène et quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit, même si c'est un mot, vous dites stop.
Alors plus récemment, le planning familial a dû lutter et se faire entendre sur un certain nombre de choses. Je pense notamment à la mobilisation en 2009 contre la baisse des subventions de l'État, hein, qui prévoyait de baisser de près de 40% leurs subventions et de totalement les supprimer l'année suivante, en 2010. Donc il y a eu un grand moment de protestation mené par les plannings familiaux, voilà, au niveau local, au niveau national aussi. Ça a été un grand travail de plaidoyer. Face à la protestation, le gouvernement fait marche arrière et signe un accord pour maintenir le budget pendant 3 ans, donc jusqu'à 2012, qui a été revoté depuis. En 2013, qui est l'année pour le mariage pour tous, le planning familial a été très engagés aussi dans les manifestations et les mobilisations en faveur donc de l'égalité des droits entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles par rapport à la question du mariage, mais aussi de l'adoption et aussi de la PMA.
S'il te plaît, laisse-moi y aller.
Pourquoi faire ?
Ça. J'ai entendu un non quand même. Je veux voir, donc pour moi, il y a un stop.
Tu veux dire pourquoi tu dis. Il m'énerve.
J'ai vu. Alors il t'énerve pourquoi ?
Parce qu'il est, on dirait, son père.
Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Est-ce que par exemple, on pourrait avoir une Linda qui répond différemment ?
Oui.
Elle peut dire.
Sarah, c'est ça ? On essaye là, Sarah. Viens.
Est-ce que le planning est devenu féministe ? Il l'est sous plein de formes, et c'est pas parce qu'il ne se revendiquait pas déjà féministe qu'il n'y en avait pas une dimension qui est celle de lutter pour l'égalité qui était déjà là. Alors c'est ça qui est intéressant avec le planning, c'est qu'il existait avant, qu'il existe toujours, et qu'il a toujours su trouver sa place et redéfinir sa place avec un développement, voilà, des associations sur les questions des violences faites aux femmes, d'autres davantage sur les questions d'égalité professionnelle, d'autres encore de défense des droits des homosexuels.
Oh, mais t'as une heure là ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Je rends des cours chez ma copine.
Ouais.
Tu rentres à la maison ?
Oui.
Non, mais tu devrais être à la maison là.
Ben, j'y allais.
T'y allais ?
J'y allais. Oui.
Eh ben, dépêchez-vous, allez-y.
Non, mais j'ai pas mon père.
C'est pas ton père ? Ton père ? Je suis où est ton père ? Il est à la maison là. Ben, moi, je suis là pour te protéger.
Tu fais trop le protecteur au moins.
Moi, je suis le protecteur ? Non, mais comment tu me parles là ?
On n'a pas besoin d'être protégé, hein.
Vous n'avez pas besoin de protéger ?
Non. Eh bien, c'est le défendre.
C'est le défendre ?
Oui.
Ah ouais, une petite fille toute fragile comme ça.
Je suis pas une petite fille fragile.
Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est pour aller au judo.
Au judo ? Tu vas aller au judo ?
Ben, pour justement apprendre à me
défendre. Ah oui, parce que j'ai plus une petite fille fragile, c'est vrai. Vraiment. J'avais oublié. Ah, vous y allez tous les deux ?
D'accord.
Ah, d'accord. Ok. Mais il y a des garçons là-bas ?
Et alors ? De partout, il y a des garçons.
Bah ouais, ouais.
Et toi, t'es un garçon ?
Ouais, mais moi je suis un garçon, ouais. Et moi je fais ce que je veux, d'accord ? Et ça, elle le sait.
Pourquoi t'as le droit de faire ce que tu veux, pas moi ?
Mais parce que moi je suis un mec !
Et alors ?
C'est tout ! C'est comme ça, c'est normal !
Je veux pas dire que moi je suis pas plus forte que toi ?
Pourquoi t'es pas plus forte que moi ? Ouais, t'es une fille, on va pas reparler déjà.
Et alors ?
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Marie-Noël Battaglia avec un petit coup de main de Claire Rivière. Merci à Jean-Baptiste Imbert pour le matériel, merci au planning familial des Bouches-du-Rhône et tout particulièrement à sa troupe de Théâtre Forum ainsi qu'à Coralie. Merci enfin aux usagères qui ont bien voulu se confier à notre micro ainsi qu'à Alice Romerio de l'Université Paris 8 qui prépare une thèse sur la professionnalisation du militantisme féministe au planning familial. La programmation musicale, des informations complémentaires ainsi que des liens sont disponibles sur le site de Radio Grenouille à la page de notre émission « Ça vient pas de nulle part ». Belle journée à tous, belle journée à toutes et à bientôt.